Eh ben nous y voilà. Allez, viens, on entre. Ah, allez, ma fille, hein, ne crains rien. Je sais que cette grotte obscure et perdue au milieu d'une vaste forêt dans les Rocheuses canadiennes peut sembler inquiétante hein, de prime abord, mais hein, croisant l'expérience de ton beau, génial et merveilleux pater, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Hein. D'ailleurs, à plus forte raison que, comme je te l'ai déjà dit, cette grosse ours ici à l'intérieur est en fait en état d'hibernation. Hein. Et c'est ça qui est pratique. Hein. Elle ne sentira rien du tout et donc tu ne risques rien.
Dis, tu es vraiment sûre, hein?
Ah, mais oui, ma petite purulence. Hein. Et c'est d'ailleurs ça qui est bien en hiver. Les ours sont naturellement inconscients. Hein, parce que bon, hein, en été, il faut les anesthésier avec des fléchettes et tout ça. Et ça déconcentre un peu de l'objectif, je trouve. Hein. Mais bref, hein, si tu tiens vraiment à faire comme ton papounet et à t'adonner à la saine et plaisante activité que représente l'ursophilie sauvage, il va bien falloir que tu te lances, hein, ma petite choupinette sans pare-choc. Hein. Allez donc, hein, tu fais comme on a dit. Tu te places bien derrière l'ours, voilà. Et puis après ça, tu utilises donc hein, le petit gant de ceinture que t'as fait sur mesure l'autre jour, le brave vieux monsieur borgne dans la boutique de la sombre ruelle. Hein. Voilà, et puis... Ah ben merde, elle est déjà réveillée, mais c'est qu'on est qu'en début février pourtant, c'est pas encore le printemps. Ah ben merde, sans doute l'animal a-t-il été, j'en sais rien moi, perturbé par le réchauffement climatique et que ça a bousillé son cycle de sommeil, allez savoir. Ah merde, Non, non, purulence, ma fille, mon rayon de soleil. Écoute, je sais que l'ours est en train de t'agresser sauvagement en te piétinant, mais il ne faut surtout pas lui montrer que tu as peur, hein, d'accord? Essaye plutôt de soumettre cet animal furieux en lui faisant comprendre que c'est toi qui le domine, tout ça, et... Ah oui, et pense aussi à parer ce violent coup de mâchoire en passant, hein. Oh, mais purulence, non, pas avec le visage, voyons, un peu de sens pratique, que Dieu! Oula! Oh putain, j'ai bien failli me ramasser ça dans la... Hein, mais qu'est-ce que c'est là qui bouge derrière ce grand rocher? Oh mais ça alors, ces chers auditeurs! Mais quelle surprise, vous allez bien? Hein, quoi? Ah ben oui, voilà, hein. Comme vous avez pu le constater en nous espionnant, je suis en train d'enseigner à ma gentille fille de 10 ans le noble sport dont je suis le champion que vous connaissez, hein. Mais dites, puisque vous êtes là, pourriez-vous me passer s'il vous plaît la petite sacoche bleue là qui est posée à côté de mon sac juste derrière vous? Voilà, merci, hein. Ah oui, c'est bien ça. J'ai amené mon pistolet anesthésiant à tout hasard, en effet. Et j'ai donc bien fait de le faire porter par Purulence jusqu'ici, hein, il faut croire. Permettez-moi. Allez, hop. Voilà, bref, pendant que le produit agit, je me tourne vers vous, mes bien-aimés auditeurs, afin de vous aviser du programme d'aujourd'hui, en matière d'histoire sans début, évidemment, hein, car c'est sans nul doute pour cela que vous êtes venus. Hein. Eh bien donc, oui, voilà, j'ai décidé de consacrer ce merveilleux final bonus number 13 à, à un personnage personnellement personnifié en la personne de Sandrine. Oui, Sandrine, souvenez-vous, la voisine de ce cher Samuel, et qui fit seulement deux courtes apparitions au tout début de la saga pour ensuite... sombré dans l'oubli le plus absolu, oui. Eh bien donc, figurez-vous, mes chers disciples, que la vie de Sandrine ne s'arrêta pas là où nous la laissâmes jadis, et que cette brave paysanne, entre-temps, a peut-être bien agi puissamment dans l'ombre, sur le cours des choses, et tout cela sans que nous eûmes pu le soupçonner, et... Tiens, mais c'est bizarre ça, l'anesthésie aurait dû avoir agi depuis le temps. Serait-ce peut-être une ours que j'aurais déjà visitée quelques étés de suite et qui aurait de fait développé à la longue un genre de résistance au produit? Ou alors j'aurais fait mon Charles Piton en oubliant préalablement de remplir les flèches avec le somnifère peut-être. Bah écoutez, la situation déjà assez problématique telle qu'elle est, hein, il est vraiment inutile que je me tourmente avec des questions qui ne mèneront nulle part, c'est pas la peine de se faire du mal. Ah oui, oui, ma fille, papa va appeler du secours. Hein. Alors... Ah mais on ne capte rien dans cette grotte, hein. Écoute, ne bouge pas, hein, ma douce purulence. Papa va voir d'or s'il ne peut pas trouver du réseau pour son téléphone, hein. Je reviens tout de suite, hein. Allez, et pendant ce temps, mes chers auditeurs, je nous envoie, non pas le générique, hein, parce que nous sommes dans un bonus, hein, pas vraiment dans un épisode, mais je vous envoie donc un merveilleux jingle, entraînant petit air, après lequel, alors que les gentils docteurs emmèneront normalement la petite pour lui faire un bandage ou deux, nous nous retrouverons, quant à nous, dans le confort de mon super vaste chalet, pour découvrir ensemble ce nouveau récit. Allez, en route! Notre histoire commence avec un plan large sur une porte en bois à l'intérieur d'un logis. Demeure ou demeurant silencieuse autant qu'obscure et dont le niveau d'hygiène laissait à désirer.
Samuel ? Oh, tu es là ? C'est Sandrine ! J'entre, hein ?
Un pas lent après l'autre, la vieille dame pénétrait avec hésitation dans la demeure, s'aventurant se faisant au sein d'une atmosphère intrigante.
Samuel, je suis inquiète. Je ne t'ai pas vue depuis plusieurs jours. Et le vent amène une curieuse odeur jusqu'à ma fenêtre depuis chez toi. Ouf, et pas de doute, elle vient bien d'ici, hein, ça pue. Tu as encore essayé de faire un gâteau ou quoi? Où es-tu? Es-tu dans la cuisine? Samuel, ça...
Oui, mes chers auditeurs, vous vous en êtes souvenus. Ce fut bien le corps gâté de Samuel, la tête enfoncée dans le four à gaz, que découvrit ce jour-là la pauvre Sandrine. Aussi s'en courut-elle paniquée à l'extérieur de la ferme de son défunt voisin pour aller faire sonner la cloche d'alarme de son hameau. Ainsi, un gamin fut-il envoyé en hâte vers la capitale voisine pour y alerter la milice, laquelle arriva, rappelez-vous, hein, très tôt, dès le lendemain matin. Et s'ensuivit alors une courte enquête dans la ferme de Samuel. Investigation d'ailleurs presque immédiatement oubliée, hein, dès lors que disparut le capitaine von Pruten et que des battues furent de fait organisées pour finalement retrouver le dit homme mort au pied d'une montagne voisine.
Ouais, bah tout ça, on le savait déjà. Bonjour à la diffusion, hein. Remboursé.
Eh oui, mes amis, Samuel, le doux et raffiné planteur de carottes que nous connaissons bien, était mort. Il s'était tristement suicidé, enfin, en tout cas, c'est ce qui fut enregistré officiellement, hein, rappelez-vous. Hein. Ah, mais bref, hein, la vie continuait, et le bourrin, bougre boursouflé tant que bouffé par les vers, fut mis en terre sans tarder au cimetière de son bourg, et avec son âne du reste, hein, lequel animal avait rendu l'âme le jour même sous des coups de lame. Car, voyez-vous, il se trouva que les indigènes furent pris de flemme, et ils s'en tinrent donc à faire un seul trou pour deux, hein. D'autant que celui creusé pour Samuel était fort grand, vu l'engin corpulent qui, je vous le rappelle, était pour le moins des plus adipeux.
Poussière, tu es poussière et tu retourneras poussière. Et ce faisant, le grand plumeau de la vie te l'a mis bien profond, mais c'est comme ça. Faut-il croire que notre Seigneur a des allergies ? Réjouissons-nous, mes frères, car notre ami Samuel va peut-être réussir à le découvrir. Lui qui s'en est allé rejoindre les moutons sous le grand canapé cosmique. Amen.
Amen.
Pauvre Samuel ! Et que va-t-il advenir de ta ferme désormais ?
Et bonne question, en effet. Samuel n'avait ni famille ni héritier, et ce fut donc au bénéfice de l'État que fut revendue la ferme de notre ami disparu. Et il ne fallut après cela pas plus de 2 jours pour qu'y vinrent s'installer les désormais nouveaux voisins de Sandrine, une certaine famille venue du Nord.
Bonjour à tes voisines, hein. On est bien dû te saluer, hein, parce que ben c'était nous qu'on a acheté la ferme là qui est à côté de la tienne et tout ça. Ouais, donc c'est nous que ça fait qu'on est voisins et tout ça, hein, donc.
Ces nouveaux arrivants s'étaient mis en tête de faire prospérer la dite plantation, bien qu'ils n'eussent pourtant aucune connaissance en ce qu'ils nommaient en profane le cultivage du carotte. Aussi ces gens vinrent-ils régulièrement, et très très régulièrement même, demander conseil à leur voisine, également cultivatrice, bien que, je vous le rappelle, hein, ce fut d'oignon en son cas.
Dis, voisine, avec Kevin et Kevin ici...
Salut à toi.
On se demandait, on voulions faire pousser des carottes, alors on a acheté des graines, mais c'est où qu'on trouve la carotte femelle pour la féconder, dis? C'est-tu encore nous, voisine?
Salut à toi.
Dis, on a fait comment, qu'est-ce que c'est que t'as dit, et on a planté les graines dans la terre, hein, mais on espère que ça va pousser vite, t'es au moins.
Ouais, faut qu'on attendions longtemps.
Il faut quand même compter quelques semaines, oui, mais n'oubliez pas d'arroser les pousses régulièrement.
Oh, ben ça, y a pas besoin, hein, on avions trouvé un moyen de le faire, comment c'est qu'on dit déjà,
Tout automatiquement.
Ouais, voilà. Donc, on avions planté les graines dans la terre, mais que c'est la vase, là, qui est au fond de la rivière, qui passe à côté de notre ferme, quoi. Et donc, ben, comme ça, les graines, hein, ben, elles sont toujours arrosées, et on ne doit pas se fatiguer.
On étions malades.
Et il va sans dire que les Kevinson devinrent vite une gêne pour Sandrine, comme pour les quelques autres habitants du hameau paysan où se déroulait l'action. Car, en effet, depuis leur arrivée, l'endroit avait quelque peu perdu de sa quiétude. Et de plus, les incidents étaient, disons, assez fréquents.
Tiens, mais qu'est-ce qui se passait si j'ajoutions de ce produit dans l'engrais des...
Mais tout cela n'était qu'un début, car alors que les jours passaient, d'autres membres de la famille des 10 voisins venaient, toujours plus nombreux, s'installer dans l'ancienne ferme de Samuel, s'entassant dans la bâtisse, jusqu'à même déborder sur les tables, à un point tel d'ailleurs que les quelques bêtes, vaches et moutons qui y crêchaient s'en retrouvèrent poussés dehors. Et errant dès lors en liberté, complètement négligé par ses propriétaires kéviniens, le bétail famélique et délaissé n'eut autre moyen pour survivre que de dévorer, au cours d'une sombre nuit, les cultures d'oignons de la pauvre Sandrine. Et suite à ce dernier drame, la pauvre vieille dame ne put que s'avouer vaincue. Elle allait devoir quitter la ferme familiale, car sa récolte annuelle d'oignons perdus, Sandrine s'en retrouvait pratiquement ruinée.
Sans mes oignons, j'ai plus un radis!
Aussi, 19 jours après l'incident des carottes de Samuel, et donc 16 après le décès de ce dernier, ce fut donc avec amertume que Sandrine prépara son baluchon. Elle ne manqua cependant pas de bouter le feu à sa ferme tout en partant. Oui, ça peut vous paraître étonnant, mais comprenez bien que notre amie préféra encore faire cela que de laisser à l'abandon sa bâtisse, laquelle s'en serait dès lors inévitablement retrouvée investie par les Kevinson, ses incrustes, lesquels continuaient d'affluer pendant ce temps dans la région, aux grandes dames des autres habitants du hameau qui finirent eux aussi d'ailleurs par imiter Sandrine et à s'enfuir peu de temps après.
Ah bah un merde! Pourquoi c'est-on toujours comme ça que ça finit quand on emménage dans un nouveau coin, t'es? Bah c'est juste que les gens, ils sont racistes, et puis c'est tout, hein.
Mais bref, ce fut donc avec son baluchon sur l'épaule, ainsi que ses quelques dernières piécettes en poche, que Sandrine quitta sa campagne natale. La vieille dame avait dans l'idée de gagner un lieu d'opulence, un endroit où elle allait peut-être réussir à se refaire. La ville capitale du royaume lointain sans lettres, à une époque qui n'est pas encore tout à fait le Moyen-Âge, mais plus vraiment l'Antiquité, et qui a un sol propice à la poussée des carottes. Alors que Sandrine traversait un paysage qui n'était plus vraiment la campagne, mais pas non plus tout à fait forestier, et ceci à un moment de la journée situé entre le matin et l'après-midi, et avec une brusque soudaineté, un bruissement émana de l'un des nombreux buissons qui jonchaient le sentier que suivait notre amie. Et curieuse, la dite voyageuse s'approcha de la main végétale, d'un pas peu sûr et pas plus sucré d'ailleurs.
Ce geste va-t-il me condiment à mort ? Suspense !
Lorsque la dame se trouva juste à côté du buisson, elle tendit une main tremblante pour en écarter les feuillages, tout en se demandant pourquoi Dieu les personnages d'histoire ne passent jamais leur chemin quand ils remarquent une chose suspecte. Et alors, d'un seul coup, une forme surgit, oui. Reculant de plusieurs bonds sous la surprise, Sandrine tomba à la renverse, puis, se redressant rapidement sur son séant, les yeux écarquillés, la dame discerna la créature improbable qui lui faisait face en dépassant du buisson. Il ne s'agissait de pas moins que un mort vivant, visiblement le cadavre d'un comptable de caractère frigide. Et ce zombie pestilent qui dépassait du buisson à partir de la taille gesticulait de façon erratique, sans pourtant émettre le moindre son de type vocal, et sous le regard horrifié de l'ex-planteuse d'oignons. Cette dernière, terrifiée, prit quand même sur elle de se relever avec prudence, et elle se mit à reculer lentement, espérant ainsi prendre un maximum d'avance avant de s'enfuir. Mais, parallèlement, la créature, elle aussi, bougea. Oui, le monstre s'avança jusqu'à sortir du buisson. Et alors, sous le regard consterné et l'incompréhension la plus totale de notre pauvre Sandrine, la nature réelle de la menace se révéla finalement.
Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Il se trouva que, sous la taille, le corps du zombie n'avait pas de jambes. Seuls demeuraient de longs lambeaux de chair putréfiée, lesquels dissimulaient en fait quelque chose de gros. La dépouille humaine au teint verdâtre, qui n'était en fait qu'emboîtée par-dessus cette forme, tel un funèbre couvre-chef, glissa d'ailleurs alors lentement jusqu'à choir inerte sur le sol. Et ainsi, la forme qui portait jusque-là ce corps en charpie par-dessus elle, comme si elle l'avait jadis enfilé, n'était autre que le spermatozoïde géant de César, ce pauvre homme parti quelque temps plus tôt en quête du rire. Oui, c'était donc ça! Et effectivement, le spermatozoïde géant s'était mis à courser la pauvre Sandrine. Vous l'aurez compris, en vue de lui rentrer dedans, hein, comme son instinct de cellule pénétrante la poussait à faire. Hein. Et donc, Sandrine courut aussi vite que ses vieilles guiboles le lui permirent, jusqu'à remarquer un peu plus loin, au milieu d'un petit pré, une cabane visiblement abandonnée. et la pauvre dame, dans un effort désespéré, fonça vers la dite habitation afin de s'y réfugier. Ce qu'elle réussit à accomplir au terme d'une longue série de foulées avant de claquer la porte derrière elle. Essoufflée autant que terrifiée, Sandrine alla se placer au centre de l'unique pièce de cette cabane, redoutant la cellule prédatrice enfermée à l'extérieur, laquelle longeait les murs en grommelant. Et puisqu'on en parle, le logement modeste en question semblait abandonné, mais depuis quelques semaines tout au plus, car il n'y avait qu'une très fine couche de poussière sur le mobilier, lequel en fait se trouvait être en assez bon état. De plus, la petite table au centre de la pièce portait encore les restes du dernier repas des propriétaires, soit deux assiettes de soupe de carottes. Alors certes, hein, la dite soupe était moisie et des mouches mortes noyées dans le potage susdit flottaient sur sa surface, hein, mouches qui s'en retrouvaient ainsi d'ailleurs elles-mêmes être la pâture d'une seconde génération d'asticots qui les besognaient. Hein. Mais voilà, tout ça indique donc, hein, mes chers auditeurs, que les lieux, voilà, finalement n'étaient abandonnés que depuis très peu de temps, hein, comme si je ne sais quel événement impromptu avait brusquement éloigné le jeune couple qui résidait là. Ah oui, c'est étrange tout ça.
Oh, mais on dirait que... cette chose a l'air de s'en aller.
Il était vrai que la créature avait quelquefois fait le tour de la bicoque avant de finalement laisser tomber, préférant s'en aller poursuivre un lièvre qui passait par là. La situation dès lors apaisée, Sandrine sortit prudemment de la cabane pour reprendre sa route. Elle marcha donc, évoluant parmi les herbes hautes du pré, en direction du sentier qu'elle quitta juste avant. Mais à peine eut-elle parcouru quelques mètres en dehors de la cabane que notre infortunée voyageuse trébucha sur un obstacle et... s'étala une nouvelle fois sur le sol.
D'accord que je suis, comme on dit, une fille de la terre, mais c'est pas obligé d'insister comme ça, hein.
Et bref, crachotant les brins d'herbe qu'elle avait par accident gobés en tombant face contre terre...
Maintenant, on va dire que je broute la pelouse, ben merci.
Face contre terre, à la pauvre Sandrine de se pencher avec un chouïa de courroux sur l'étrange masse qui venait de la faire choir.
Écartons un peu ces herbes et voyons ça, hein. Alors... mais c'est bizarre, c'est une longue forme raide et compacte qui jonche le sol, mais pourtant, oui, sa surface est toute douce et toute soyeuse. Oh, c'est probablement un nid de ces créatures que l'on nomme des vers à soie, là. Hein. Je n'en ai jamais vu dans la région, hein. Sûrement encore des bestioles importées par accident dans les caravanes des marchands étrangers. Hein. Mais où va ce monde, hein?
Et après s'être relevée sur cette dernière pensée, Sandrine regagna le sentier et reprit enfin sa route. Ou du moins le crut-elle, car en vérité, ses troubles du milieu de journée avaient désorienté la pauvre dame âgée, ce qui lui avait accidentellement fait prendre une bifurcation. Mais dans l'esprit de Sandrine, et vu sa position géographique, une route allant vers le nord ne pouvait que mener à la capitale, nulle raison pour elle donc de s'interroger. Et de surcroît, le sort voulut que la bonne femme ne se rendit compte de rien, ni alors, ni ensuite, étant donné qu'une certaine conjoncture l'empêcha, tandis que le soir commençait à tomber.
C'est la nuit, ça tombe bien. Je vais donc à présent tourner ma tête vers le panneau d'accueil pour en découvrir le nom et me conforter dans l'idée que je suis sur la bonne route.
Mais une autre vieille femme se tenait là. Une indigène qui passait lentement, fortuitement, et obstruait ce faisant la vision du dit panneau pour Sandrine. Et remarquant d'ailleurs cette dernière, la dite vénérable s'arrêta et lui lança...
Oh bah t'es une étrangère. Et comment ça va, madame t'es?
Ah non.
Putain, t'es belle se barre. Oh, mais qu'elle est vulgaire, hein, cette connasse!
Sandrine était en fait arrivée dans le village d'Oreo, à l'ouest de la capitale, mais elle ne le sut pas, donc, hein, vous l'aurez compris. Hein. Mais somme toute crispée et empressée par le relent de récent traumatisme qu'avait fait naître la rencontre susdécrite, notre pauvre voyageuse, par ailleurs fourbue, se contenta de se ruer dans la première auberge qu'elle vit, en vue d'y prendre une chambre. Sans rien dire de plus que le nécessaire, donc, elle commanda également sur place un repas à emporter à l'étage. Et pendant que l'aubergiste lui préparait son plateau, Sandrine, accoudée au comptoir, observa pour s'occuper les clients assis aux tables alentours. Un peu circonspecte, elle arrêta un long moment son regard d'ailleurs sur quatre colosses attablés au fond, et qu'il était très difficile de ne pas remarquer.
Bébé, ouais, bébé, oh, un peu bébé dans verre, serveur.
Voilà, voilà, je vous apporte 4 autres cervoises. Mais valez pas de cette fois-ci, hein.
Pouet, pouet, fifi, fifi.
Tout en lui préparant son plat et constatant que Sandrine regardait la scène, l'hôtelière œuvrant au comptoir lui expliqua.
Oh, ne faites pas attention à ces brutes. Ce sont les quatre gardes du corps de feu la princesse Migraine. Comme elle est morte récemment, ça a mis ses protecteurs au chômage. Depuis, ils errent, et là, ils restent glandés depuis plusieurs nuits dans mon auberge. Ils sont lourds, mais ils ont de l'or, donc on fait avec.
Le repas de Sandrine servit. Cette dernière l'emporta et alla s'enfermer, s'offrant ainsi quelques séclusions dans sa chambre à l'étage. Elle y passa la nuit seule et s'endormit rapidement.